RFI 22h à Paris, 21h en temps universel.
Charlotte de Rouen.
À Gaza, le bilan toujours très incertain des morts dues à la guerre entre Israël et le Hamas. Des milliers de corps sont toujours sous les décombres. Aux États-Unis, Donald Trump met ses menaces à exécution et impose des droits de douane supplémentaires sur les produits mexicains, canadiens et chinois qui seront importés. L'Inde craint d'être aussi dans le viseur du président américain. 5 ans après le Brexit, quel impact pour le Royaume-Uni? Le pays a retrouvé sa souveraineté, mais l'immigration n'a jamais été aussi élevée que ces dernières années, contrairement à ce qu'espéraient les Brexiteurs. En Indonésie, la déforestation a augmenté en 2024, et ce pour la 3e année consécutive. Et puis nous serons au Stade de France pour faire un point sur le match de rugby entre la France et le Pays de Galles en ouverture du tournoi des Six Nations. Au Proche-Orient, 3 otages israéliens doivent être libérés demain samedi en échange de détenus palestiniens. Des libérations dans le cadre de l'accord de trêve entre Israël et le Hamas à Gaza. L'israélien Yarden Bibas, le franco-israélien Ofer Calderon et l'américano-israélien Keith Siegel seront donc relâchés à Gaza. 15 mois après le début de la guerre, les habitants prennent conscience un peu plus chaque jour de l'ampleur des destructions et du nombre des victimes. Le dernier bilan du ministère gazaoui de la Santé fait état de 47 460 morts, mais beaucoup de personnes ne sont pas comptabilisées, selon Maïm Koureichi. Elle est chirurgienne et elle opérait dans l'enclave palestinienne il y a quelques mois, alors que les bombardements étaient constants.
On sait que le décompte est largement sous-estimé pour les morts directes, mais on ne compte même pas ceux qui sont morts de la faim ou les morts avant la naissance par manque de nourriture et de soins. Les problèmes congénitaux qui en résulteront pour ces enfants, ils en paieront le prix pour le reste de leur vie. Le décompte n'inclut pas non plus les personnes qui sont mortes de maladies qui auraient tout à fait pu être traitées dans le système de soins palestinien tel qu'il existait avant la guerre. L'hôpital Nasser avait une unité de dialyse. Quand j'y étais il y a quelques mois, elle accueillait 30% de patients en moins qu'avant la guerre. Est-ce que les bilans prennent en compte les morts qui surviennent des semaines après une hospitalisation pour septicémie? Nous n'avons qu'une infime idée de ce bilan humain, que ce soit les morts ou les souffrances, et je ne crois pas que l'on saura jamais à quel point cela fut terrible.
Des propos recueillis par Abla Junaidi après des échanges demain donc entre les 3 otages israéliens et les prisonniers palestiniens. Le point de passage entre Gaza et l'Égypte pourrait rouvrir. C'est ce qu'indique l'agence France Presse qui cite des sources proches des négociations. Le terminal de Rafah, la frontière égyptienne, était essentiel pour faire entrer de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne avant que l'armée israélienne n'en prenne le contrôle en mai 2024. L'Union européenne a déployé aujourd'hui une mission d'assistance à cette frontière égyptienne. Elle doit permettre notamment le transfert de blessés. L'Organisation mondiale de la santé estime que 12 à 14 000 personnes ont besoin d'être évacuées de Gaza pour des raisons médicales. RFI 16h03 à Washington. La Maison-Blanche le confirme. Il y aura bien une hausse des droits de douane sur les produits canadiens, mexicains et chinois importés aux États-Unis. La menace était brandie par le président Donald Trump. Elle sera effective à partir de demain, samedi 1er février. 25% de taxes en plus sur les produits mexicains et canadiens, 10% sur les produits chinois. Donald Trump qui avait aussi brandi ses menaces de taxation contre d'autres pays, dont l'Inde. L'idée que des membres des BRICS tentent de s'éloigner du dollar pendant que nous restons les bras croisés est terminée, a écrit le président américain sur son réseau Truth Social. Son objectif, eh bien, c'est de contrer le projet d'une nouvelle monnaie commune au sein des BRICS. Mais l'Inde, grand partenaire économique des États-Unis, veut éviter une guerre commerciale, Léa Ojal.
Les BRICS, dont fait partie l'Inde, ont pour ambition de contester la domination occidentale. Le bloc de puissance a mené des réflexions pour se passer du dollar, monnaie de référence dans les échanges mondiaux. Ces réflexions ont d'ailleurs été saluées récemment par Narendra Modi, le premier ministre indien qui se félicite des efforts engagés pour accroître l'intégration financière entre les pays des BRICS. Pour autant, New Delhi réfléchit à des solutions pour éviter de fâcher les États-Unis, son premier partenaire commercial. Car si Donald Trump mettait à exécution sa menace, l'exportation de marchandises indiennes en subirait forcément les conséquences. Le gouvernement indien pourrait par exemple favoriser l'achat de produits américains comme le pétrole, l'acier et les avions. Lors d'un échange téléphonique le 27 janvier dernier, Donald Trump a demandé à Narendra Modi d'acheter davantage d'équipements de défense américains et de s'orienter vers un partenariat commercial équitable. Le mois prochain, les deux dirigeants doivent se rencontrer à la Maison Blanche. Léa Ojal, New Delhi, RFI.
C'était il y a 5 ans, le Royaume-Uni quittait l'Union européenne, un départ qui avait suscité la joie de ceux qui avaient milité pour une sortie de l'Union. 5 ans plus tard, quel impact le Brexit a-t-il eu sur le Royaume-Uni? Emeline Vin a consulté les chercheurs du groupe de réflexion UK in a Changing Europe.
Côté économie, difficile de démêler ce qui tient à la pandémie, à la crise de l'énergie ou au Brexit. Mais l'économiste Jonathan Portz est formel.
On peut dire avec une quasi-certitude que le Brexit a eu un impact négatif. Les estimations de 5% de PIB vont trop loin. Mon analyse, c'est que le Brexit nous a coûté 2 à 3% de PIB.
En clair, moins pire qu'attendu. La grande promesse du Brexit, la souveraineté retrouvée, c'est en revanche bien matérialisée. Réalisé selon Anand Menon, politologue et directeur du think tank UK in a Changing Europe.
Le gouvernement britannique a désormais une certaine liberté sur les normes, en particulier en matière de services financiers et d'intelligence artificielle, avec l'espoir d'attirer des investissements. Il n'y a pour l'instant pas de résultats concrets, mais le gouvernement compte jouer là-dessus.
Les partisans du Brexit espéraient aussi un contrôle plus fort des frontières, et pourtant, l'immigration n'a jamais été aussi élevée, pointe l'économiste Jonathan Portz.
Personne ne s'attendait à une telle montée de l'immigration extra-européenne. L'une des conséquences du Brexit, c'est une population plus diverse et plus jeune.
Pour les deux chercheurs, et malgré la sortie de l'UE, le Royaume-Uni reste une puissance mondiale, économique et diplomatique. Emeline Van Londres, RFI.
En Indonésie, la déforestation a augmenté en 2024, 4000 hectares de plus qu'en 2023, selon une étude de l'ONG Auriga Nusantara. L'organisme alerte ainsi sur une progression de la déforestation légale qui facilite l'exploitation minière de l'huile de palme et menace la biodiversité. Juliette Pietraszewski.
C'est à partir d'images satellites et d'enquêtes sur le terrain que l'ONG Auriga Nusantara a pu parvenir à ce constat alarmant. À la clé des chiffres vertigineux, plus de 2600 km² de forêts primaires et secondaires déboisées en 2024, une augmentation pour la troisième année consécutive et une progression de la déforestation légale qui touche presque toutes les provinces du pays, sauf la région autour de Jakarta. Les pertes les plus importantes se situent dans la partie indonésienne de l'île de Bornéo et notamment dans la région de la nouvelle capitale, Nusantara, en pleine construction. Les ONG environnementales du pays appellent donc le chef de l'État, Prabowo Subianto, au pouvoir depuis octobre, à mettre en place un décret présidentiel pour protéger toutes les forêts naturelles restantes. Seulement voilà, les derniers projets annoncés par le président vont complètement dans le sens inverse. Parit Ridwanuddin travaille pour l'ONG Greenface Indonesia.
Nous avons aussi une grande menace avec le nouveau président, parce qu'avec son ministère de la forêt, il va développer de grands projets avec de nouvelles plantations d'huile de palme, des réserves alimentaires et énergétiques. Ils veulent convertir près de 20 millions d'hectares, donc c'est très inquiétant.
20 millions d'hectares, l'équivalent de la superficie du Sénégal, alors que l'Indonésie possède la troisième forêt tropicale du monde, après celle du Brésil et du Congo.
Juliette Pietraszewski. En rugby, la France et le Pays de Galles s'affrontent en ce moment. Match d'ouverture du tournoi à destination, une rencontre que vous suivez pour nous au Stade de France, Babacar Diarra. On est à la mi-temps.
Effectivement, Charlotte, le pire était annoncé pour les Gallois. Certains journalistes voulaient penser qu'ils allaient repartir avec 40 points dans la valise. Et figurez-vous qu'à la mi-temps, plus de la moitié du chemin a été effectué. Le score est de 28-0. Pourtant, ce 15 du Poirot a résisté 16-17 minutes avec une défense féroce face aux assauts du 15 de France. Mais la digue a cédé face à la variété du jeu guidé par Antoine Dupont, le capitaine du 15 de France. Et ces Français sont allés inscrire 4 essais, 2 doublés. Un pour Théo Atisogbe, le cadet de cette sélection de Fabien Galthié, le Landais d'origine togolaise qui a ouvert le score d'ailleurs à la 18e minute. Un doublé pour lui et un doublé pour monsieur, un essai par match, Louis Biarré, le trois quarts de l'UBB de Bordeaux-Bègles. 28-0 pour
Merci
l'instant,
Babacar. C'est une démonstration.